France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille François Belair, qui n'est pas seulement le fils de la grande chanteuse Marie Dubas, mais aussi un connaisseur passionné du music-hall, où il nous convie ce matin à la rencontre de Dranem, Edmé Favard, Georgius et plus près de nous d'Odette Laure ou des frères Jacques. François Belair à mes côtés dans une quinzaine de minutes. En fin d'émission, nous danserons le tango avec Jean-Louis Mingallon. Mais ce matin, tandis que vous traînez encore au fond du lit, j'ai décidé de commencer sur le mode langoureux.
Es far früh in der Ginge in dir weiter, durch die Felder mit Freuden gesiegt, tief im Herzen den Lenz und die Freude, an den Herr dachten wir damals nicht. Aber nun ist doch schon gekommen und viel schneller als ich gedacht. Nun ist alles so leer, nun ist alles so schwer, ist vorbei, was mich glücklich gemacht. Roter Mond, warum wählst du denn mein Herz sollst du blühen, soll ich nur. Roter Mond, den der Liebste mir gab, wärst du bei ihm schon verloren hab. Rot wie Blut voller Pracht, warst du noch gestern erblüht, Roter Mond, warum wählst du denn schon? Wie mein Herz sollst du glühen und feurig
Voilà, une langue allemande teintée d'accent latin, puisque Rosita Serrano, qu'on vient d'entendre, était née chilienne avant de connaître un grand succès dans l'Allemagne des années 30, avec en particulier cette chanson Roter Mond, ça veut dire la fleur de pavot rouge, sur une musique de Michael Jarry, grand compositeur de musique de film allemand. Rosita Serrano, qu'on connaît trop mal en France, est morte en 1997. Et cette chanson m'a donné envie d'aller plus loin encore dans les retrouvailles avec la langue allemande, avec un slow que j'ai beaucoup entendu dans ma petite enfance parce que c'était celui sur lequel dansaient mes parents et sûrement beaucoup d'entre vous.
Nachts geh ich dahin. Ich bin allein und frag warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich, warum? du gingst fort, wohin? Ich rief dich oft, doch du bliebst stumm. Du fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frag mich, warum? Sag, warum? Bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
Pour les plus jeunes qui ne le sauraient pas forcément, c'était un méga tube de l'année 1959, chanté par Camillo. En fait, il s'appelait Camille Felgen et c'est un chanteur luxembourgeois, né en 1920, mort en 2005, qui a donc connu un certain nombre de succès, mais surtout Zach Varum, présenté également au concours Eurovision de la chanson en 1962, où il n'a obtenu que la troisième place, je crois. Mais enfin, en tout cas, c'était un immense succès. Et alors, je me suis aperçu, ça m'a beaucoup surpris, parce que je ne savais pas qu'en fait, cette mélodie est de Phil Spector, le grand musicien américain, aujourd'hui en prison pour de bien fâcheuses raisons. Mais en tout cas, c'est Phil Spector qui a d'abord écrit cette chanson dans une version américaine. Je vous la ferai peut-être écouter d'ailleurs la semaine prochaine. Excellent Ray Martin et son orchestre de concert en l'année 1953 dans ce petit morceau divertissant intitulé La poule picorante. Et je ne résiste pas à l'occasion de rendre ce matin, une fois de plus, un hommage aux gallinacés, qui, vous le savez, me sont très très chers. Ce sont des animaux souvent un peu méprisés, un peu mal vus, et pourtant, je les trouve irrésistibles. Ils ont d'ailleurs inspiré beaucoup de musique, pas seulement la poule picorante. Je vais vous en donner tout de suite deux preuves dans le domaine de l'opérette, en commençant par Geneviève de Brabant, cet opéra bouffe complètement déjanté d'Offenbach que je rêve, j'espère, voir un jour reparaître sur une scène parisienne, au Châtelet, à l'Opéra Comique. Il y en a bien un qui va s'y mettre depuis le temps que je le réclame. En tout cas, Geneviève de Brabant comporte justement cette entrée du rôle principal, M. Siffroy, qui chante les couplets de La Poule, ici interprété par Jean Giraudeau.
Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, appelait ton cocoton, son coq absent pour l'instant. On était au mois de mai, et déjà l'air enflammé, et moustillé jusqu'aux os, les chats, les chiens, les oiseaux. Coquelicot ! Quelques gens de basse cour, coquelicot ! Renferme d'amour, est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratte gratifie de l'ardeur de mes 20 ans? Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratte gratifie de l'ardeur de mes 20 ans? J'en ai comme un vertigo, j'en ai comme un vertigo. La poulette que l'amour tracassait depuis un jour, frétillait d'un air coquet, et qui vont le provoquer. Aussi son coquin de coq, perché non loin sur un soc, le voyant tant frétillé, rentra vite au poulailler. Coquelicot ! Que ce soit de basse cour, coquelicot ! Renferme d'amour, coquelicot ! Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratte gratifie de l'ardeur de mes 20 ans? Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratte gratifie il y a de l'ardeur de mes 20 ans? J'en ai comme un vertigo, j'en ai comme un vertigo.
Le chœur et l'orchestre Radio Lyrique sous la direction de Marcel Carivienne en 1956. C'était la voix, bien sûr, irrésistible de Jean Giraudeau dans cet extrait de Geneviève de Brabant. Mais ça n'est pas tout. Cocorico, c'est même le nom d'une opérette tout entière, une opérette de Louis Gane, une opérette d'ailleurs créée en 1913. Alors là, on est évidemment plus dans l'esprit un peu, qu'on dirait, cocardier et revanchard à la veille de la Première Guerre mondiale. Et cette opérette de Louis Gane, qui se déroule d'ailleurs dans le temps passé, mais nous montre des immigrés français à l'époque de Napoléon, dont le chant de ralliement, c'est justement Cocorico.
Quand le Maghreb passe, on chante à mi-voix, Cocorico, Cocorico, avec un air cocasse. Quand il part à la chasse, on dit 7 fois, Cocorico, Cocorico, il va chercher ses bois. Coq à l'instant chante comme un brave, Cocorico, Recoveco, mais la chose est plus grave. Par simple dévouement, la belle Margrave, Cocorico, Cocorico, a pris un amant.
Cocorico, Cocorico, avec un air cocasse, et si par la chasse, on disait de toi.
Excellent Louis Gane dans l'opérette Cocorico de 1913 ici. C'était Linda Felder qui chantait sous la direction de Marcel Cariven. Mais il est temps maintenant de retrouver notre encore nouvelle rubrique Allô la disco.
Allô.
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 Allô la disco.
Allô la disco.
Allô la disco.
Allô la disco.
Et chaque semaine, une vraie rareté issue de nos merveilleuses archives de la discothèque de Radio France, une des plus belles au monde. Je vous redis, si vous avez des idées, des envies, des désirs, n'hésitez pas à me les soumettre. On essaiera de vous faire plaisir. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai ressorti alors un extrait d'une opérette complètement oubliée, Bel Amour de Guy Lafarge, excellent compositeur. On l'a évoqué la semaine dernière avec La Belle Arabelle. Bel Amour, créée à Paris au Théâtre des Nouveautés en 1943 et dans laquelle M. Georges Milton chante cette chanson « Attends-moi sous l'obélisque ».
Je suis d'un naturel docile et patient. Je fais toujours plaisir aux gens. Quand un ami me dit j'ai par distraction laissé mes sous à la maison, veux-tu s'il te plaît me prêter quelques billets sans perdre le nord? Je lui réponds c'est d'accord. Attends-moi sous l'obélisque. Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Attends-moi, qu'est-ce que tu risques? Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Si je n'y suis pas, ne t'en fais pas. Fais le tour de la place à petits pas, prends un bol d'air en m'attendant, sois patient. Tourne autour de l'obélisque, tout autour, tout autour, tout autour. Tourne, tourne comme un disque, tout autour, tout autour, tout autour. Quand t'auras tourné 123 fois, recommence en partant du pied droit. Ne perds pas ton sang-froid. Attends-moi. Rue des Pyramides, un monsieur trop pressé monte sur mes pieds sans s'excuser. Je l'enguirlande, il se retourne et je vois un gaillard de 2m23. Si ça te déplaît, t'as qu'à venir, petit pousset. Tiens, viens donc, tiens, là, je t'attends. J'ai dit, je reviendrai sûrement. Attends-moi sous l'obélisque. Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Attends-moi, qu'est-ce que tu risques? Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Si je n'y suis pas, ne t'en fais pas. Fais le tour de la place à petits pas. Prends un bol d'air en m'attendant. Sois patient. Tourne autour de l'obélisque. Tout autour, tout autour, tout autour. Tourne, tourne comme un disque. Tout autour, tout autour, tout autour. Quand t'auras tourné 123 fois, recommence en partant du pied droit. Ne perds pas ton sang-froid, attends-moi. Désireux de pratiquer l'équitation, je file l'achat d'un canasson. On saute à le premier obstacle en même temps, mais lui derrière et moi devant. Les quatre fers en l'air, je n'étais pas du tout fier lorsque ma jument me dit en se cavalant: attends-moi sous l'obélisque, attends-moi, attends-moi, attends-moi. Attends-moi, qu'est-ce que tu risques? Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Si je n'y suis pas, ne t'en fous pas. Fais le tour de la place à petit pas, prends un bol d'air en m'attendant, sois patient. Tourne autour de l'obélisque, tout autour, tout autour, tout autour. Tourne, tourne comme un disque, tout autour, tout autour, tout autour. Quand t'auras tourné 123 fois, recommence en partant du pied droit. Ne perds pas ton sang-froid, attends-moi.
France Musique.
Et oui, vous êtes bien sur France Musique, vous écoutez Étonnez-moi Benoît et vous venez d'entendre donc Monsieur Georges Milton dans Bel Amour, opérette de Guy Lafarge, créée en 1943 dans des décors et costumes d'RT. C'était un disque Columbia accompagné par l'orchestre Pierre Chagnon. Je vous donne même la référence puisque là on est dans la discophilie, CL 78-72. Mais nous voilà maintenant au théâtre. Et oui, parce que mon invité aujourd'hui, je crois qu'il doit les connaître tous, les théâtres de la capitale et les music-halls et les cabarets. Il les a fréquentés très assidûment depuis sa petite enfance. D'abord avec sa mère, Marie Dubas, et puis tout seul, par passion, par goût, des comédiens et des chanteurs dont il va nous parler ce matin. J'ai le grand plaisir d'accueillir François Bellaire. Les Mordus, une chanson très rare des frères Jacques que je n'ai jamais vue rééditée. C'était avec Jean-Michel Defaille et son ensemble. Merci de l'avoir apporté, cher François Bélair. Et vous aurez remarqué, comme tous nos auditeurs, au début de la chanson, ces paroles, les Mordus du Music Hall ont connu Maurice et Marie Dubas.
Oui, oui, c'est amusant. D'ailleurs, c'est vrai. Et eux l'ont connu aussi.
Les frères Jacques ont connu Marie Dubas.
Bien sûr, ils ont été, après la guerre, dans une de ses rentrées à l'ABC, elle avait en première partie la compagnie Orion le Tueur, des Greniers Husneau, dans lesquels les frères Jacques, qui n'étaient pas encore les frères Jacques que nous avons connus, il y avait Yves Robert, il y avait Madeleine Barbulé. Ils étaient passés du cabaret Rive Gauche à la grande scène de music hall de l'époque, l'ABC Boulevard Poissonnière, et ils faisaient la première partie du spectacle. J'ai même trouvé des photographies où ils sont ensemble.
Avec Marie Dubas.
Voilà.
Ah bah c'est merveilleux. Puis en plus, cette chanson, François Bélair, c'était presque votre portrait, les Mordus du music hall. Parce que je disais la semaine dernière, je sais que ça vous a fait un peu rougir, que vous étiez
beaucoup.
Un des meilleurs spécialistes, sinon le plus grand spécialiste du music hall. Je voulais dire par là que, bien entendu, il y a des grands historiens de cet art, mais vous êtes celui qui en plus l'a connu de l'intérieur depuis votre prime enfance.
Je suis tombé dans le chaudron. J'étais sur scène avant de naître. C'est surtout ça, je crois que c'est ça qui a dû me marquer.
Votre mère enceinte a chanté?
Absolument. Elle menait une revue à l'ABC. Et à 5 mois et demi, elle était encore sur scène. Et je pense que ces chansons, j'ai dû les entendre sans vouloir faire du Salvador Dali. Mais je pense que ça a quand même beaucoup marqué, sans doute, mon avenir, ça, certainement.
Vous êtes né au début de la guerre.
Je suis né juste avant la guerre,
un peu avant la guerre, en 38. Mais de fait, toutes les grandes figures du music hall d'avant-guerre, vous les avez connues dans les années 40 et 50 parce que la plupart étaient encore vivants,
oui,
sinon
et
en
puis,
activité.
Parce que ma mère voulait que je les connaisse. J'ai vu Fréhel un mois avant qu'elle ne meure dans un cinéma rue Lafayette devant un rideau et ça m'a paru extraordinaire. J'ai vu évidemment Damia, puisqu'elles étaient ensemble. J'ai vu Joséphine, j'ai vu Miss Tinguette dans sa revue de l'ABC. N'en parlons pas des autres après, qui étaient évidemment beaucoup plus récents.
Ça fait 3 fois, François Bélair, que vous citez l'ABC. Ça n'existe plus aujourd'hui.
Hélas, non.
Redites-nous un mot pour les auditeurs qui ne savent pas quelle était l'importance de
alors,
ce musical.
L'ABC était 11 boulevard Poissonnière.
Oui.
Ça a été un directeur mythique qui s'appelait Mitty Goldin, qui avait repris cet endroit qui existait déjà avant sous un autre nom, mais qui en a fait vraiment, en prenant les 3 lettres pour être le premier, toujours, dans les annonces, dans les journaux.
Ah,
ABC,
c'était pour ça,
voilà, il voulait être le premier, toujours en tête. Et en 1934, il a ouvert ce music hall. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, ma mère était déjà arrivée au sommet, mais elle devait faire l'ouverture du music hall. En fin de compte, il y a eu un problème de contrat. C'est Lise Gauthier, Autre grande vedette, malheureusement, que l'on a un peu perdue aujourd'hui de vue, mais qui était une artiste de grand, grand talent, qui a fait l'ouverture. Le deuxième spectacle, c'est Marie Dumas. Elle a fait quand même 13 ABC entre l'avant-guerre et les spectacles d'après-guerre.
On pourrait dire que c'est un peu l'équivalent de ce qu'a été l'Olympia après la guerre.
C'était une salle un peu plus petite. C'était une salle surtout où ce n'était pas enfermé. C'est-à-dire que les comédiens de théâtre... Colette est venue à l'ABC refaire une conférence et chanter des chansons. Ça devait être incroyable. Cécile Sorel est venu, il faisait venir des grands comédiens comme Victor Boucher. Arletty a joué l'École des Veuves de Cocteau. C'était un spectacle cosmopolite. Il y avait des tours de chant, il y avait des scènes de théâtre. Elle a joué, par exemple, dans une de ses revues, parce qu'il y avait aussi des revues. Elle, c'était en alternance. Elle a joué des sketchs avec Pierre Dac. Il n'y avait aucun interdit, tout était possible à l'ABC.
On va revenir évidemment sur toute cette époque, sur les artistes que vous avez croisés et que votre mère également a connu, François Bellaire. On commence tout de suite par un document rare que vous nous avez apporté. Peut-être vous nous dites juste en quelques mots son originalité de cette version de Pedro, grand succès de votre mère. Et puis on en reparlera après l'avoir écouté.
Oui, alors Pedro, sa chanson fétiche, ses débuts à l'Olympia qui a partie de son commencement. C'est la seule fois où on l'entend chanter le troisième couplet qu'elle a toujours chanté sur scène. Elle l'a enregistré 3 fois en 78 tours, et jamais elle ne l'a chanté, ça faisait trop long. En 3 minutes, elle ne pouvait pas. Et là, ce que vous allez entendre dans la prise de son et ce qu'elle est, c'est une émission en public, et on entend des bruits, c'est quand elle tape le sol, elle fait les apatéados, et donc c'est un jeu de scène, puisqu'elle dansait cette chanson autant largement qu'elle la chantait.
Voilà, et figurez-vous que c'est au gala de la résistance de la police parisienne que donc se trouvait Marie Dumas en 1949 dans cette chanson, alors qu'elle était déjà évidemment bien avant la guerre, une grande vedette, mais sa carrière ne faisait que continuer pour encore assez longtemps.
Elle a continué jusqu'en 58, effectivement, où la maladie l'a obligée à s'arrêter. Et elle avait disparu des scènes parisiennes pendant 5 ans, puisqu'elle avait été interdite en tant que d'origine juive. Il n'était pas inconcevable qu'elle chante à Paris. Et elle a sauvé déjà sa vie, ce qui a été extraordinaire.
Ce qui a été extraordinaire. Et la vôtre du même coup, ce qui nous ouvre le plaisir de vous recevoir ce matin, cher François Bellaire, pour évoquer quelques moments de la vie du music hall, quelques moments de la vie de Marie Dubas, quelques personnalités, tout ça d'une façon un petit peu croisée. Alors on va entrer, si j'ose dire, dans le vif du sujet, en remontant plutôt à la première partie de la carrière de votre mère, Marie Dubas, qui a été d'abord chanteuse d'opérette. Hein, elle a commencé dans la danse des Libellules.
Oui, elle a même été d'ailleurs d'abord dans l'amour masqué avec Sacha Guitry et Yvonne Printemps. Où elle était déjà deux servantes avec Marthe Ferrat. Et puis ensuite, rapidement, sa carrière d'opérette s'est installée.
Elle a chanté donc la danse des Libellules, un certain nombre d'ouvrages, et elle rencontre, si l'on peut dire, sur scène en 1925, c'est pour ça que je voudrais qu'on s'arrête un petit peu à lui, le grand Dranem, personnage évidemment beaucoup plus âgé de l'ancienne génération du music hall.
Alors, PLM est une opérette de Rip, qui était plutôt un revuiste, mais une opérette de Rip, qui était le grand revuiste, qui a laissé un nom immortel dans l'histoire de la revue, et Christiné pour la musique. Les deux grandes vedettes chevronnées étaient Dranem et Marguerite Deval. Elle était la jeune première, et comme jeune premier, elle avait, tenez-vous bien, Max Derieux, dont vous avez parlé,
la semaine dernière.
Et dont vous avez reçu la fille.
Et dont on a écouté d'ailleurs la voix aussi, oui. La rencontre, alors, Dranem, Marie Dubas, elle avait de l'admiration pour ce grand fantaisiste.
Elle très grande admiration, comme d'ailleurs la plupart de toutes les personnes de l'époque. Si vous voulez, il n'y avait pas ce mépris pour la chanson, justement, comique.
Et idiote, même, comme on disait.
Idiote, mais si vous voulez... En fait, incontestablement, Bourvil est quand même celui qui peut nous donner l'idée aussi de ce qu'a été Dranem avant. Il y a une continuité. Mais incontestablement, les surréalistes aussi, je crois, et les intellectuels aimaient entendre Dranem, ce genre de chansons. D'ailleurs, Adrienne Monnier, qui a eu cette fameuse librairie pendant tant d'années en face de Sylvia Beach sur rue de l'Odéon et qui écrivait elle-même, qui était plutôt en commerce avec Paul Valéry ou James Joyce, adorait et a écrit sur Dranem, comme elle a écrit d'ailleurs sur Chevalier, sur Marie Dubas.
On va la citer dans un instant, mais alors restons à Dranem, Marie Dubas. Donc Dranem, beaucoup plus âgé, personnage revenant même dans les années 20 d'un music hall disparu.
Oui, il avait été la tête d'affiche de l'Eldorado, boulevard de Strasbourg, où il chantait donc ses chansons idiotes avec son petit chapeau sur la tête et les yeux fermés, vêtu d'une manière très cocasse. Et puis, après la guerre, il a fait un retour magnifique et dans l'opérette. Chevalier l'admirait beaucoup, mais quand il a joué avec Chevalier dans Là-haut, eh bien, c'est lui qui a volé la vedette à Chevalier.
Il a fait d'autres spectacles
PLM avec Marie Dubas. Ils se sont retrouvés au Théâtre Marigny, dans une revue de Saint-Granier qui s'appelait la revue 1928, où il y avait quand même un assez joli plateau, puisqu'en dehors de Dranem et de Marie Dubas, il y avait Saint-Granier et Rému.
Oui, c'est pas mal.
C'était pas mal. Pire.
On les voit tous les deux dans un film,
je
crois.
Ça, c'est très drôle. Oui, il y a une actualité qui a été filmée au début des années 30 pour une fête de charité avenue de l'Opéra où il y a tout le monde. Ils sont à côté l'un de l'autre. Et vraiment, je crois qu'il l'aimait beaucoup parce qu'il aimait l'humour, il aimait la fantaisie. Elle lui rendait bien. Et alors qu'il y avait à côté d'eux Mistinguette et Damia, on entend Dranem dire à haute voix... Marie Dubas, la première chanteuse française. Alors, ma mère ne sachant pas où se mettre, je la vois lui envoyer une bourrade en se disant « mais je vais me faire arracher les yeux par mes deux charmantes consoeurs ».
Alors, on retrouve tout de suite Dranem dans une chanson extraite d'une autre opérette, « Les sœurs Hortensia », dans laquelle ne jouait pas Marie Dubas, mais où il est question de Marie Dubas.
Et oui, c'est assez drôle d'ailleurs, en effet.
Les ménages d'aujourd'hui, chacun des époux s'enfuit et tire en liberté de son côté. La maîtresse du mari sert souvent, c'est le dernier cri, à madame de petite chérie. On aura tout vu, les trucs les plus fous et tout. Ah, quelle drôle d'époque, plus rien ne vous choque, on est tous un peu loufoques. On voit dans les revues, au milieu des nus, Cécile qui s'amène en célimène. La maison de Molière montrera cet hiver Mademoiselle Joséphine Paquer. Allez. le paiera dont les recettes chagrinent. On engagera pour son ultra-poitrine Marie Dubas qui chantera Lohengrin. Quelle chance, chance, chance. On aura tout vu, on aura tout vu. Les trucs les plus fous et tout et tout. Ah, quel drôle d'époque, plus rien ne vous choque. Tout le monde aujourd'hui balabre le budget pour boucher ses trous, nous pompe jusqu'au dernier sou. On est sexe des parents comme des harengs. Comme il lui faut de la galette, il ne pourra plus mettre en scène que des impôts sur les dettes. On aura tout vu, on aura tout vu. Les trucs les plus fous et tout et tout. Ah, quel drôle d'époque, plus rien ne vous choque. On est tous un peu loufoques. Surtout on déclenche une loterie par tranche pour mieux nous cacher qu'on est fauché. Et tous les millions, c'est de tradition, vont du côté d'Avignon. Les poules très chères, les plus chics de Paris, pour leur affaire, adoptent l'Uniprix. On a la paire, pour 10 francs tout compris, ma chère, c'est cher, cher. On aura tout vu, on aura tout vu. Les trucs les plus fous et tout et tout. Ah, quelle drôle d'époque, plus rien ne vous choque. Tout le monde aujourd'hui va la prologue.
Les sœurs Hortensia, opérette d'André Barde et Raoul Moretti pour la musique. C'était donc l'excellent Dranem. Ben voilà, il nous dit que Marie Dubas, qui chantera Lohengrin à l'opéra, on aura tout vu.
Oui, c'était naturellement l'arrivée de Cécile Sorel au Casino de Paris qui avait déclenché ça avait été quand même, ça paraissait tellement extravagant que la grande sociétaire de la Comédie Française fasse
Aïe au musical. Imaginez le contraire, que le musical aille à l'opéra.
C'était ça l'inspiration de la chanson.
Vous avez cité juste auparavant, François Belair, cette grande figure de la vie intellectuelle parisienne, la libraire Adrienne Monnier, qui a donc écrit quelques lignes sur votre mère.
Oui, mais ces gazettes qui étaient publiées dans un journal ont été ensuite publiées chez Julliard dans un livre qui, naturellement, est introuvable maintenant, mais que j'ai la chance d'avoir. Et il y a un chapitre sur Dranem, comme il y a un chapitre sur Marie Dubas et les femmes dans le comique de la femme.
Et c'est important de dire, parce que c'est pas la seule, je veux dire, d'une certaine façon, le milieu d'avant-garde de l'époque aime le musical.
Aime le musical, ça c'est incontestable. Colette, les surréalistes adorent Georgius, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais c'est vrai, ça c'est incontestable, il n'y a vraiment pas de rupture là.
Alors, donc elle parle du comique chez la femme, Adrienne
Monnier. Oui, elle parle du comique chez la femme, et il y a un chapitre où elle dit « Au café-concert où le comique doit aller fort, les femmes brillent surtout dans la romance sentimentale et la chanson dramatique. » Sur une scène de théâtre, elles peuvent être entraînées par un ensemble, mais dans le tour de chant où l'on a à se présenter seul, leur inaptitude à faire rire se révèle nettement. Elle enchaîne avec le chapitre Marie Dubas. Marie Dubas est à ma connaissance la seule femme qui puisse prétendre au vrai comique, rivaliser avec des artistes comme Chevalier, Fernandel, Georgius, etc. Donc elle fait toute une analyse de son art. Elle est garçonnière, dit-elle. On n'y pense pas tout de suite à cause de sa féminité, du costume, etc., etc. Donc je passe là-dessus, mais elle termine en disant « Peu d'artistes ont autant de franges drôlerie et d'intelligence que Marie Dubas. Elle a plus d'entrain et de santé que personne. Ce garçon manqué est une femme prodigieusement réussie, une femme charmante et comique, en même temps, autant dire, un merle blanc. » C'est quand même un assez joli compliment.
Je ne voudrais pas d'ailleurs contredire ce que vient de nous dire Adrienne Monnier, mais il y a quand même des grandes comiques, je pense Gabi Montbreuse par exemple,
bien
ou d'autres,
dans le musical féminin.
Mais
c'était rarissime, c'était quand même l'exception, c'est vrai. Je suis heureux que vous citiez Gabi Montbreuse, que je n'ai pas connue. Ma mère l'a connue, j'ai même les lettres d'elle, mais j'ai entendu ses enregistrements et je les adore.
On va écouter maintenant justement alors une artiste qui, elle, est plutôt du monde de l'opérette, mais qui est aussi une fantaisiste et une très bonne chanteuse. C'est la grande Edmée Favard, créatrice de Ciboulette, que votre mère a également côtoyée.
Elles ont été ensemble sur le plateau du Théâtre des Variétés lorsqu'il y avait eu une saison Offenbach, donc c'était avant que ma mère soit venue au Tour de Chant. Et on avait remonté Madame l'Archiduc, qui est un ouvrage d'Offenbach d'après 70, qu'on ne joue pas, malheureusement, qu'on n'a pas repris, à ma connaissance, depuis bien longtemps.
Jamais.
Et dans lequel il y a quand même des airs merveilleux. Et c'était Judic qui avait créé le rôle, je crois, d'ailleurs.
Anna Judic.
Et Edmée Favard, donc, a joué cette... Vous savez, quand elle est arrivée avec Ciboulette, un mot simplement là-dessus, ce n'est pas Ciboulette qui a fait la gloire d'Aimé Favart, c'était Aimé Favart qui a fait la gloire de Ciboulette. Oui. Elle était immensément célèbre et connue et drôle. Mais petite anecdote que je vais quand même avoir le plaisir de vous citer, et Dieu sait si je ne partage pas cet avis là-dessus, ma chère, ma grande Yvonne Printemps me dit un jour, nous parlons de Reynaldo Hahn, qui a quand même écrit Mozart pour Yvonne Printemps. Oh oui, vous savez, non, Reynaldo Hahn n'aimait pas les bonnes chanteuses, il aimait Aimé Favart. Non, vous savez, non, vraiment. Je dois dire que je suis resté sans voix.
Le duc avec l'arvette m'a proclamé à la tête. Il marche le poupette, Johnny le son royal. Il m'a titre suprême, en perso diadème. Comme il l'a dit lui-même, c'était original. Mais mon cœur n'est pas à fondre. Il a vrai, quoi que Marietta, malgré tout qu'il a pu prétendre, n'a reçu duc, n'a pas eu ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, l'archiduc n'a pas eu ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, l'archiduc n'a pas eu ça. Quant au petit capitaine, la chose est bien certaine, il a perdu sa peine, certes, il m'a fait la cour, de quoi me plaire, mais j'ai donc cette affaire, quoi qu'on me croit légère, refuser son amour. Mon mari seul me trotte en tête, il a vrai, quoi de Marietta, malgré tous ses airs de conquête, le petit bonhomme n'a pas.
Aimé Favart en 1930, Aimé Favart qui n'a pas de lien de famille avec Favart qui a donné son nom à la salle, sauf qu'elle a beaucoup chanté aussi dans la salle Favart.
Oui, à l'Opéra Comique, elle a même chanté Così fan tutte, qu'elle a enregistré un disque introuvable d'ailleurs.
Alors François Belair, merci de nous faire redécouvrir ce bel enregistrement, en tout cas de Madame l'Archiduc. Vous nous avez dit juste auparavant, il faut bien qu'on précise pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément tous les détails, et même plus que les détails de la carrière de votre mère, qu'elle n'avait pas encore commencé le tour de chant, dites-vous. Ça veut dire qu'elle a fait d'abord une carrière de chanteuse d'opérette et ensuite une carrière de chanteuse de musical dans cet ordre-là.
Oui, tout à fait. Voilà. Elle avait amorcé une jolie carrière de chanteuse d'opérette. Voilà. Donc là, elle était le petit bonhomme dont on parle justement, Aimé Favart, dans le couplet, le capitaine, le petit capitaine, c'était elle, un rôle de
travesti. C'est elle qui jouait ce rôle-là.
Qui jouait le rôle du capitaine Fortunato, oui. Donc au Théâtre des Variétés.
Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce tournant dans sa carrière?
En deux mots, elle a eu un enrouement, elle a eu des nodules sur les cordes vocales, en créant une comédie musicale qui avait été écrite pour elle, Reynaldo Hahn,
Le temps d'aimer. Très jolie.
À la Michaudière, à ce moment-là, elle s'arrête et elle pense que sa voix est perdue. Elle part jouer la comédie, sa voix revient et elle commence à chanter quelques couplets en intermède. On lui dit, mais vraiment, le tour de chant, ça marche tellement fort qu'elle va voir à ce moment-là Paul Franck, le directeur de l'Olympia, qui était encore un music-hall. Il a cessé de l'être pendant 30 ans. Elle débute, il la met en tête d'affiche à l'Olympia, elle fait un tabac et ça, fin,
ça lance sa carrière. 1927,
sa carrière de tour de chant, elle devient du jour au lendemain vraiment alors une grande vedette.
Mais elle n'aurait pas pu rechanter l'opérette?
Oui, ben non, elle n'a pas eu l'occasion de le faire, c'est vrai, pas beaucoup.
Il y a des rôles qui permettent d'avoir des voix
elle
pas
a beaucoup
absolument
lyriques. Elle, dans sa première partie de carrière, parce qu'effectivement sa voix a changé, après la guerre, elle avait une voix qui, d'ailleurs, parce que aussi la mode l'avait fait, qu'on ne pouvait plus chanter avec, dans le tour de chant avec une voix de chanteuse d'opérette, ce qui était un peu son cas dans la première partie. Et quand d'ailleurs Dranem parle de Lohengrin, c'est vrai qu'on l'a chiné un peu quelquefois, car elle avait tendance à chanter un peu haut.
Ah oui.
Et c'est un peu quelquefois une chose qu'on remarque dans les disques. Donc sa voix avait changé, donc il n'était plus question, mais elle aurait pu le faire, effectivement, elle a eu envie de le faire, et elle a plutôt joué la comédie après la guerre, quand elle interrompait son tour de chant, elle le reprenait, mais c'était pour jouer le petit café avec Blier ou bien Bichon, des choses comme ça. Voilà,
voilà, et je rappelle aussi aux auditeurs que, si j'ose dire, pour l'histoire de la chanson, Marie Dubas était aussi une des premières grandes artistes à avoir donné un tour de chant complet comme un spectacle dans lequel elle mêlait les genres au fond les plus divers.
Oui, ça a été
la tragique
que le théâtre,
etc.,
lui a donné. C'est ça, c'est d'être à la fois drôle et sentimental, humoristique et dramatique. Et ça lui a donc donné la possibilité d'être, je pense, c'est toujours difficile de dire oui ou non la première, un récital seul sur scène dès tout début des années 30, formule qui n'a été adoptée par exemple même par Maurice Chevalier qu'après la guerre.
Après la guerre. Alors restons un peu dans le registre comique avec encore une autre grande figure, alors que j'adore, vous le savez, François Bellaire, c'est Georgius.
Ah,
le grand Georgius. Quel lien avec Marie Dubas?
Alors vraiment là, je crois qu'il y avait une admiration réciproque d'abord formidable.
Ouais.
On les a beaucoup, beaucoup, non jamais opposés, mais rapprochés au contraire. Beaucoup d'articles, et tenez-vous bien, il y a un article que je n'ai pas là maintenant, mais que je dois d'ailleurs à la gentillesse du spécialiste de Georgius, qui a écrit un livre sur lui, une critique de Fernand Léger, le peintre, pas un homonyme, le vrai, Fernand Léger, adorait le musical, adorait la chanson. Il a écrit un article sur Marie Dubas et Georgius, ou Georgius et Marie Dubas, comme vous voudrez. Il dit que c'est à Bobino qu'il faut les voir, dit-il à ce moment-là. Car, dit-il, quand j'ai vu Marie Dubas au Casino de Paris, le public est enthousiaste, mais enfin, il applaudit du bout des gants. Tandis qu'à Bobino, c'est l'enthousiasme, c'est le DG. Et pour Georgius, c'est la même chose. Donc vraiment, il y avait un grand rapprochement entre eux. Et très souvent, il y avait des critiques. Quand il y avait le nom de Georgius, il y avait le nom de Marie Dubas,
Marie
qui
n'était
pas loin. Et par ailleurs, une chose très amusante, j'ai dans mes archives une lettre d'un artiste qui a été très, très important à son époque, Ouvrard, mais pas Ouvrard fils, Ouvrard père, qui était bien plus célèbre que son fils.
L'inventeur quasiment du comique troupier.
L'inventeur du comique troupier, qui a d'ailleurs évolué beaucoup. Et il était retiré au début des années 30 à Bergerac, où il était né. Et il était le plus grand et le plus, dit-il, il écrivait le plus intime ami de Georgius. Et voilà ce qu'il écrivait à ma mère. Elle a suivi ses conseils. « Quand une nouveauté de ce remarquable ami semblera dans vos cordes, prenez-la donc sans hésitation et offrez-la à ce public qui vous aime tant. » Eh bien, ça s'est fait, effectivement. Il y a une chanson que ma mère a mise à son répertoire qu'elle n'a pas enregistrée, à ma connaissance. On peut faire des découvertes.
Mais qu'elle a beaucoup chanté sur scène.
Mais qu'elle a énormément chanté sur scène. D'ailleurs, dans son premier tour de chant, dans son premier récital au Grand Théâtre des Champs-Élysées, elle la chantait, puisque j'ai le programme avec les titres, c'est « Fleur des fortifs ».
Un des grands succès de Georgius.
Un des grands succès de Georgius.
On écoute, alors tout de suite, dans la version de Georgius.
Bien sûr.
Malakoff et Saint-Ouen, il y avait une pauvre bicoque, où ce qu'habitait une fille de rien, qu'avait des salures équivoques. La malheureuse avait 16 ans, et n'avait plus ses pères, ses mères, et pour manger convenablement, elle vendait des fleurs au cimetière, et puis le soir elle vendait son corps, pour s'acheter une côtelette de porc. On l'appelait Fleur des Fortifs, à cause qu'elle avait l'air chétif. Elle avait l'œil rébarbatif, et faisait l'amour en collectif. Quand on pense à tous ces oisifs, qu'ont des bagues et des pendentifs, y'a de quoi s'arracher les tifs, y'a pas d'autre qualificatif, tif-tif. Un soir près de l'usine à gaz, elle rêvait de mille tendresses avec un gars qui ferait du jazz. et qui lui ferait vibrer la caisse. Elle aperçut un vieux vieillard, les vieillards ne sont jamais jeunes, qui la suivait dans le brouillard, à l'heure où ce que les riches déjeunent. Que voulez-vous qu'elle lui cria? Le vieux vieillard lui dit comme ça: on t'appelle fleur des fortifs, fais un arrêt facultatif, nous allons prendre l'apéritif. Je le paierai, je ne suis pas juif, je suis vieux, mais je suis sensitif, je rêve de petits trucs lascifs. Si tu me fais du superlatif, je te paierai double tarif, ri-ri. Mais elle le poussa de grands cris, un, deux, en reconnaissant son grand-père. Arrière cochonnet, qu'elle lui dit, il fit cinq, six bonds en arrière. Et dans un sursaut de dégoût, il s'étrangla avec sa barbe, il se jeta son corps dans l'égout, tandis qu'elle se pendait à un arbre. Comme quoi y a toujours de l'honneur, où ce qu'il y a du sens et du cœur. On l'appelait fleur des fortifs, elle repose d'être sous un massif de rhododendron maladif, où le rossignol chante pensif. C'est l'État, le grand responsif, qui laisse les filles vendre leur rosbif, et le maire leur répond plaintif. Tout ça c'est bien emmerlatif, tif tif.
Voilà une parodie de chansons réalistes, comme on a fait beaucoup. Georgius, c'était un peu une de ses spécialités. Et effectivement, ce côté parodique le rapproche beaucoup de son ami Marie Dubas.
Ils étaient aussi séduits l'un que l'autre par cette formule, effectivement. Ouais. Et par ailleurs, dans une autre chanson célèbre, sérieuse, qui s'appelait Ernest, éloignez-vous, elle adorait ça, et donc elle a adoré chanter cette chanson-là. Mais je veux dire que l'entendre par Georgius, c'est un bonheur.
Alors François Bellaire, vous l'avez vu Georgius, hein ?
Oui, j'ai eu la chance de le voir sur scène. La dernière fois, je pense, où il a paru sur scène, car il y a eu en 1965, c'était hier, un gala à l'Européen, le vrai, enfin l'Européen, qui existe toujours, mais qui n'avait pas encore été défiguré. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait le théâtre en rond, on ne l'avait pas coupé en deux.
Près de la place Clichy.
Près de la place Clichy, rue Biot. Et là, c'était Louis Merlin, celui qui a fondé l'Europe numéro 1, qui était un critique qui avait adoré la chanson et qui avait demandé qu'on fonde un musée de la chanson depuis 1965. Bon. Ce musée n'a jamais existé, non, on a ramassé des fonds, ouais, qui ont disparu, on ne sait pas où. Et dans cette manifestation, j'étais dans la salle, Damia était dans la salle, elle est venue saluer à la fin, mais elle n'a pas chanté. Mais il y avait un plateau superbe, il y avait Lucienne Boyer, il y avait Charpigny, Suzy Delair est venue
notre
chanter accompagnée par Jean Paris
et Georgius.
Il y avait Milton aussi. Et Georgius qui a chanté Les Archers du Roi, qui a chanté naturellement le Lycée Papillon et puis un troisième titre.
Et c'était encore bien ?
C'était magnifique, oui. C'était superbe.
C'était pas encore un très vieux monsieur, enfin quand même.
Mais il est mort pas très âgé, il est mort quelques années plus tard d'ailleurs, mais il avait encore enregistré, il avait fait un nouvel enregistrement à ce moment-là.
Alors vous le disiez tout à l'heure, en tout cas vous avez vraiment grandi avec tous ces artistes, François Bellaire. J'ai même trouvé des articles de journaux des années 48, 49 ou 46 même, où vous commentez déjà les chansons de votre
46,
mère.
J'avais 7 ans.
Ben oui, ben vous avez fait changer les paroles d'une chanson de votre mère à cet âge-là parce que oui, vous trouviez que la fin était immorale et vous lui avez fait changer les paroles.
Je devais vraiment être un petit monstre. Mais non, il est vrai que j'étais tellement imprégné de ça. C'est vrai que je me cachais sous le piano quand il y avait les répétitions. C'est vrai que j'avais mon mot à dire. C'est-à-dire que, par faiblesse sans doute, coupable, ma mère me demandait ce que je pensais, je lui disais carrément. Il arrivait effectivement que je trouve que la fin ne me plaisait pas, donc effectivement je crois qu'il y a une chanson où elle avait retenu un truc, c'est vrai.
Et une de vos passions peut-être les plus précoces et les plus continues, ça a été celle d'Yvonne Printemps.
Ah oui, ça Yvonne Printemps, vraiment ça j'ai été sous le charme d'Yvonne Printemps dès ma prime adolescence. J'ai eu le bonheur de la connaître ensuite, de connaître Pierre Freinet, naturellement, auprès d'elle, et je les ai connus jusqu'à la fin de leur vie.
On en avait d'ailleurs parlé dans une précédente émission, mais entre-temps, vous avez contribué à la réalisation d'un très beau coffret chez Marianne Mélodie, qui est, on peut dire, la vraie intégrale des enregistrements disponibles de Printemps.
Hein. Qui regroupe des choses extraordinaires, qui n'avaient jamais été publiées, notamment les airs d'Offenbach qu'elle chantait dans la Valse de Paris.
Voilà.
Et puis, ça, c'est merveilleux, parce qu'elle n'a jamais enregistré. Elle non plus, elle était un peu... Elle aussi, devrais-je dire, était fâchée un peu avec les enregistrements, mais qu'elle ait quand même enregistré beaucoup. Mais beaucoup de choses qu'elle n'a pas faites, hélas. Et ça, on l'a maintenant grâce à ce coffret.
Et on va écouter, alors, la toute dernière chanson enregistrée par Yvonne Printemps, avant qu'elle n'arrête de chanter. Elle a vécu encore longtemps, mais c'était en novembre 1954.
C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et c'est donc Pierre Yégel. Ça faisait 10 ans qu'elle n'était pas allée dans un studio d'enregistrement. Il l'a fait revenir pour enregistrer quelques mélodies classiques et quelques chansons comme celle que vous allez nous faire entendre et que j'adore.
Tout me semble inutile. Sans parfum ni couleur, un nuage immobile fait de l'ombre à mon cœur. Le soleil de septembre se bat et me fanit, n'a laissé dans ma chambre qu'une larme dorée. Ce n'est qu'une peine de cœur sans importance, un peu de chagrin sur les fleurs de nos vacances. Ce n'est pas très sérieux, et pourtant c'est beaucoup, c'est que j'étais, mon Dieu, amoureuse de vous. Adieu, belle image en couleur de nos vacances. Ce n'est qu'une peine de cœur sans importance. Je reviens d'un voyage dans vos yeux effrontés. Je m'en vais d'un visage que j'aimais embrasser. Je saurai tout à l'heure oublier tout cela. Il se peut que j'en pleure, vous ne le saurez pas. Ce n'est qu'une peine de cœur sans importance, un peu de chagrin sur les fleurs de nos vacances. Ne soyez pas inquiets, c'est la fin d'un soupir. Les amours de juillet sont de beaux souvenirs. Vos yeux de ciel, le goût de miel de vos cigarettes et votre voix accueillant pour moi. Dieu, belle image en couleur de nos vacances, ce n'est qu'une peine de cœur sans importance.
C'était Peine de cœur par Yvonne Printemps. La voix était un petit peu voilée, François
Belair, oui,
hein, quand même, on peut le dire. Mais c'est très beau, c'est très mélancolique. C'est une musique de Louis Guy, des paroles de Villemetz, l'orchestre de Paul Durand en novembre 1954. Et quelques mois plus tôt, en juin 1954, Yvonne Printemps, vous écrivez une lettre charmante. Cher François, fils de Marie Dubas, ça commence comme ça. Votre lettre est exquise et me cause un vrai plaisir. Et ça finit par ne manquez pas de dire à votre mère mon meilleur souvenir. Pourtant, ce n'est pas vraiment le même style, hein, Printemps et
Non, mais
et
elles avaient joué ensemble. Elles s'étaient vues chez Lanvin. Elles étaient habillées chez Lanvin à un moment donné. Et puis elles se sont toujours rencontrées.
Mais... Votre mère n'avait pas du tout ce côté mondain, diva de...
Bien sûr que non. Et puis, de toute façon, c'était Yvonne Printemps et Pierre Freinet, à partir du moment où elle a vécu avec lui, ils ont vécu dans une thébaïde. Mais la lettre que vous venez de citer, c'était à propos de... Simplement un mot là-dessus. le gala d'adieu de Marguerite Deval, qui avait été organisé à la Michaudière par Yvonne Printemps et Pierre Freinet. Marguerite Deval, donc, était une merveilleuse comédienne, nous en avons parlé tout à l'heure. Et Yvonne Printemps, pour cette occasion, avait revêtu le costume de Mozart et avait chanté l'air de la lettre pour faire plaisir. Ça faisait la dernière fois qu'elle a chanté sur scène, et la seule fois où je l'ai entendu chanter sur scène. Je l'ai vu dans des pièces, mais la seule fois où je l'ai entendu chanter, c'était dans ce gala. Et c'est le sujet de la lettre que je lui avais écrite, et grâce à quoi j'ai la réponse que vous avez citée.
Il faut dire, François Dubac, que vous connaissez aussi bien le théâtre que le musical, et donc vous avez suivi aussi effectivement la carrière d'Yvonne Printemps
oui,
sur les planches.
Oui, je ne sais pas si je le connais aussi bien, mais en tout cas je l'aime autant, ça c'est vrai. Autant.
Et Printemps sans la musique, c'était très bien
aussi.
Ah oui,
c'était une excellente comédienne. Dans la pièce de Bourdet, Hyménée, où elle jouait toute la pièce dans un fauteuil roulant, ce qui la privait de beaucoup de ses avantages, si je puis dire. Elle était extrêmement bonne comédienne. Oui, c'était une comédienne consommée. N'oubliez pas quand même qu'elle avait joué en face de Lucien Guitry. Elle avait eu des partenaires prestigieux. Elle était venue vraiment du musical au théâtre avec une aisance prodigieuse.
Vous me comblez toujours parce que, voilà, avec vous, on se balade comme ça très librement dans un monde qu'on aime et qui est maintenant très loin de nous.
Mais
hélas. Alors, on s'est dit qu'on allait continuer la promenade avec quelques artistes qui ont peut-être moins directement travaillé avec Marie Dubas, mais que vous avez aimé, François Belair, et notamment Odette Laure, qui d'ailleurs était, je crois, une admiratrice de votre mère, mais qui est très oubliée aujourd'hui.
Alors, Odette Laure était une amie. J'ai eu beaucoup d'affection pour elle, comme beaucoup d'autres. Mais Odette Laure avait donc commencé par être d'abord une vedette de la chanson, et puis ensuite, elle est devenue quand même une vedette de cinéma. N'oublions pas quand même qu'elle a tourné avec Dirk Bogarde dans Daddy Nostalgie, qu'elle a joué au théâtre des pièces, beaucoup de pièces. Elle a eu un très grand succès au théâtre, après avoir perdu, si je puis dire, son rang. Quand la chanson a été balayée par une vague yéyé, c'est vrai que tout s'est arrêté. Mais pour vous montrer que je ne suis quand même pas uniquement enfermé dans ce qui s'est passé il y a 80 ou 70 ans, elle jouait une pièce de Maria Pacôme qui s'appelait « On m'appelle Émilie ». Je vais voir Odette Laure, je l'embrasse. C'était il y a environ 25 ans. Et dans cette pièce, il y avait un jeune garçon qui chantait une petite chanson et qui grattait de la guitare et que j'avais trouvé épatant. En sortant de la loge d'Odette, je le croise dans l'escalier. Oh, je lui dis, vous savez, je peux me tromper, mais je crois que vous allez faire une carrière superbe. C'était Patrick Bruel, donc je m'étais quand même...
Ah oui, c'est
c'était quand même amusant.
Très amusant. Alors, on va la retrouver justement, Odette Laure, dans une chanson du répertoire de Marie Dubas.
Ah oui, c'est sa première chanson. Alors, ma mère a créé au Théâtre de l'Étoile, dans ses rentrées d'après-guerre, elle a fait un grand passage au Théâtre de l'Étoile, qui n'existe plus naturellement, qui était à côté de l'Empire, qui n'existe plus non plus, avenue de Wagram. Bon, l'Étoile, c'était l'endroit où mon tante traînait, Piaf passait et donnait des récitals. Mais... Et Miarka Laparcerie, alors il faut que j'explique deux mots. Miarka Laparcerie était une femme de talent qui composait des chansons, qui écrivait des paroles, mais là, elle avait écrit paroles et musique. Elle avait écrit la musique également d'une chanson que nous aimons beaucoup, qui s'appelle « Mon cœur est un violon », chantée et créée par Lucienne Boyer, sur un poème de son grand-père. Elle était la petite-fille de Jean Richepin et la fille d'une comédienne extrêmement célèbre qui s'appelait Cora Laparcerie. Donc elle s'appelait Miarka, je l'ai connue. Et elle avait écrit un certain nombre de chansons que ma mère avait créées dans ce passage à l'Étoile, dont une chanson qui s'appelait « Elle aimait mieux ». Et quelques années plus tard, Odette Laure, se lançant dans le tour de chant, reprend cette chanson à son compte, la débaptise et l'appelle « Le petit officier de marine », sans changer un mot de la chanson d'ailleurs, et c'est son premier succès.
Il y avait sur le quai de Toulon une fleuriste amoureuse, très amoureuse, disait-on, d'un petit officier blond. Mais un vieil amiral jaloux rêvant de la rendre heureuse, lui offrait robes et bijoux et tout, et tout, et tout, à la fleuriste, tour à tour. Les deux rivaux parlaient d'amour. Elle aimait mieux son petit officier de marine. Elle aimait mieux son petit officier aux yeux bleus. Elle n'aimait pas le vieil amiral, la triste mine. Elle n'aimait pas le vieil amiral et c'est pour ça qu'elle aimait mieux son petit officier de marine. Elle aimait mieux son petit officier aux yeux bleus. Le petit officier pas sérieux a trompé la fleuriste. Il tomba, dit-on, amoureux d'une brune aux grands yeux. Vieil amiral tout bouleversé de voir qu'elle était triste, lui dit, je peux le remplacer, il n'y faut plus penser. L'amour est un bonheur trop court. Elle ne croyait plus à l'amour. elle n'aimait plus, elle n'aimait plus le petit officier trop frivole. Elle n'aimait plus le petit officier qui lui plut. Elle l'aimait mieux, le vieil amiral qui la console. Elle l'aimait mieux, le vieil amiral, et c'est pas vrai. Car en secret, elle préférait son petit officier de marine. Car en secret, elle préférait son petit officier au teint frais. Le petit officier plein de remords est revenu quand même. Il a reconnu tous ses torts, l'amour est le plus fort. Le vieil amiral tout dépité cassa son mât de misaine. Sa golette peut plus marcher sans voile dans les unies. Et le petit officier pendant ce temps-là haïssait son plus beau pavois. Elle aime ça, le beau pavois, son petit officier de marine. Elle aime ça, et dans ses bras, que ce soit grand vent ou calme plat. Car en amour, il vaut bien mieux un amant qui soit infidèle, mais qui soit jeune et vigoureux, qu'un vieil amiral tout cagneux. Et c'est pour ça qu'elle aime mieux son petit officier de marine. Elle aime mieux, 100 000 fois mieux, son petit officier aux yeux bleus, aux yeux bleus.
Et c'était Odette Laure qui est morte en 2004. Elle était née en 1917 et elle a donc mené cette double carrière, effectivement, d'actrice et ce qu'on connaît moins, évidemment, de chanteuse, n'est-ce pas, François?
Oui, je pense qu'on se souvient quand même bien, naturellement, de sa carrière d'interprète au cinéma, au théâtre et à la télévision, où elle a fait aussi de nombreux rôles à la télévision, dans des Maigret, je me souviens, il n'y a pas longtemps encore, on a rediffusé, où elle était parfaite. C'était une excellente comédienne, excellente femme d'esprit. Et une femme très intelligente, passionnante même, passionnante et passionnée par tant de choses aussi.
Il n'y a pas de doute, François Bellaire, vous êtes vraiment l'homme au monde qui connaît le mieux le musical. Vous n'avez pas besoin de notes, vous savez tout, vous parlez. Moi, je suis là, je pourrais vous écouter pendant des heures.
Je rougis.
Mais on va malheureusement devoir conclure dans quelques instants. Alors, on va quand même donner aux auditeurs le programme de la prochaine émission. Il y aura par exemple René Passeur.
Ah,
la
oui.
Femme de Steve Passeur, grand auteur dramatique un peu oublié aussi.
Comédienne, amusante, qui avait joué avec Guitry, qui avait un cabaret Place de la Bastille chez Victor, où elle chantait les premières chansons de Ferré.
Voilà, on la garde pour la prochaine fois, tout comme Eugénie Buffet, à laquelle
oui.
On avait pensé.
On aurait bien aimé entendre Eugénie Buffet aussi. Et puis Zizi Jeanmaire, que j'adore et que j'ai pu connaître d'ailleurs il n'y a pas longtemps, avec laquelle j'ai pu même prendre une tasse de thé grâce à notre ami Martin Penney, quand elle était venue à Paris. Et puis tant d'artistes que j'aime, fantaisistes.
Vous continuez de suivre tout ce qui se passe.
Oui. Hein. J'essaye, bien sûr. Oui, oui.
Et vous avez notamment, évidemment, beaucoup encouragé amicalement notre chère Edwige Bourdi, qui reprend avec beaucoup de succès le répertoire de votre mère, Marie Dubas.
Il y a un très, très beau spectacle. Il y a eu quelques très, très, très grandes... Mais vous savez, il y a beaucoup d'artistes. Catherine Delourtet a fait un très joli passage. Je n'ai pas pu aller l'entendre, malheureusement, car j'étais dans la possibilité cet été. Elle avait repris le spectacle qu'elle avait monté il y a quelques années au sud des Champs-Élysées. Il y a Pamina, bien sûr, qui a fait des choses ravissantes. Et Edwige Bourdi, qui a fait un merveilleux spectacle, Marie Dubas, et qu'elle continue à faire, j'espère, encore assez souvent, et avec une présence et un talent et une drôlerie... Tout à fait, en accord avec le sujet.
Le sujet. Merci beaucoup, François. Un mot pour conclure de la chanson qu'on va entendre maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe en moi.
Alors, c'était une chanson aussi, naturellement, de l'après-guerre. C'est une chanson qu'elle n'a pas enregistrée en disque, donc je vous demande d'être un peu indulgent, peut-être pour la qualité technique. C'est une prise, c'est un enregistrement live.
On a voulu faire entendre des raretés,
voilà,
aujourd'hui.
C'est un enregistrement
live. Mais on peut renvoyer aux très bonnes compilations de Marie Dubas,
oui,
avec tous ses succès, bien sûr.
Qui permet quand même de la retrouver tout entière. Mais là, c'est une chanson dont elle a écrit elle-même le dernier couplet.
Eh bien, merci François Bellaire. Et puis j'espère vraiment à très bientôt à ce micro.
Ah ben, je reviendrai avec joie si vous m'invitez, bien sûr.
Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Est-ce dans le cœur, est-ce dans la peau, est-ce dans la tête? Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je suis indécis, je tourne au vent comme une girouette. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. J'aime le violon et j'apprends à jouer de la trompette. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je fais tout ce que je peux pour amincir. Je fais de la culture physique. Je prends des bains turcs et des heures sans faiblir. Je subis des massages scientifiques. Au restaurant invité, je dis une tomate et un thé. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Mon voisin de gauche savoure une entrecôte pommes frites.
Je ne sais pas ce qui se passe en moi, ce que ça sent bon, je sens que ma volonté s'écrise. Je ne sais pas ce qui se passe en moi, je prends le bifteck, je prends les pommes, je prends la cuite. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Quand je vois papillonner mon amant, je lui dis vraiment, tu exagères, t'es frivole et coureur et tyran. C'est fini, je retourne chez ma mère. Plus jamais tu ne me reverras, il me prend dans ses bras. Je ne sais pas ce qui se passe en moi, j'ai le nez qui remue, les genoux qui plient, le cœur qui s'arrête. Je ne sais pas ce qui se passe en moi, je suis envoûtée, entortillée, je perds la tête. Je ne sais pas ce qui se passe en moi, et dans ses bras je me laisse voir comme une poire bleue. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Certains soirs je me dis que mon métier, que le théâtre, c'est un vrai martyr. Ils nous dévorent, ni repos, ni liberté. Je lâche tout dans le Cantal, je me retire. Mais on me crie, à vous Marie, et quand je suis ici. Je ne sais pas ce qui se passe en moi, dès que je respire l'air du plateau, alors tout change. Je ne sais pas ce qui se passe en moi, je suis exaltée, je suis contractée, oh quel mélange. Je ne sais pas ce qui se passe en moi je sens bouillonner une ardeur étrange. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Il faut que je chante, il faut que je danse, il faut que je pirouette. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je dis une chanson, puis dis viva, j'ai le cœur en fête. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Pour m'arrêter, il faut que le rideau me tombe sur la tête. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Ce qui se passe en moi.
Un enregistrement rare de « Je ne sais pas ce qui se passe en moi », chanson célèbre du répertoire de Marie Dubas, enregistrée en 1953. Et puis alors, vous pouvez retrouver évidemment beaucoup de chansons de Marie Dubas dans des quantités de compilations, et notamment dans l'ensemble qui lui a été consacré chez Frémo et associé en deux CD. Vous pouvez lire aussi Marie Dubas, comédienne de la chanson de Robert Delaroche et François Belair, qui était mon invité ce matin. Un livre paru voici quelques années aux éditions Christian Pirot. Voilà, nous y reviendrons de toute façon au fil des semaines, mais il est maintenant 12h sur France Musique. C'est l'heure de retrouver la chronique aujourd'hui, Jean-Louis Magalon. Et oui, car le tango est la seule danse à disposer d'une chronique à part entière sur les ondes, grâce à vous Jean-Louis.
Bah, grâce surtout.
Il n'y en a pas pour la valse, il n'y en a pas pour le mambo, mais il y en a une pour le tango.
Normal, vu le public.
Voilà, j'étais sûr que vous alliez justifier ce parti pris. Alors de qui nous parlez-vous ce matin, cher Jean-Louis?
Je vais vous parler de Juan Carlos Cáceres, né en 1936 à Buenos Aires, Argentin donc.
Et de Paris?
Alors, justement, c'est un personnage un petit peu atypique pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un musicien multi-instrumentiste. Oui. Il joue de tout, essentiellement du piano, mais aussi du trombone, de la batterie. Il est aussi chanteur, il est aussi auteur-compositeur, il est aussi peintre. Bon, ça, c'est la première raison. La seconde, pourquoi il est un peu original, c'est qu'il est en France depuis 68, lui.
Ah oui, ça fait un bail, voilà. Comme on dit.
La plupart sont venus après le déclenchement de la dictature en 76, les années 70. Donc. Alors lui, il est venu en 68 parce qu'en 66, il y a eu encore un coup d'État. Il y en a eu beaucoup en Argentine. Bon, en 66, il y a un nouveau coup d'État. C'est le général Onganía qui prend le pouvoir. Il instaure évidemment un régime épouvantable. Et lui, Carlos Cáceres, il s'en va. Il quitte l'Argentine. Il passe par l'Espagne et il arrive à Paris en plein milieu des bagarres, des pavés au Quartier Latin. Donc en mai 68, bon. C'est quand même assez original. Il a 30 ans et il est assez content de ce qui se passe quand même. Là. Ouais. Voilà, il est plutôt de ce côté-là. Bon. Troisième raison aussi de l'originalité, c'est que parmi les musiciens de tango, il est un des rares à jouer aussi du jazz.
Ah bon?
Voilà, il en a fait dans le temps. Il en fait toujours un petit peu. C'est toujours un peu là, le jazz. Une de ses idoles, c'est Miles Davis, évidemment. Il trouve qu'il y a d'ailleurs des liens entre le jazz et
le tango. Hein. Ouais.
Bon, et dernière raison importante, dans la galaxie tango, lui défend inlassablement l'idée que le tango, ce n'est pas une musique blanche. Voilà. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent que c'est de la musique blanche, que ça vient d'Europe et tout ça. Lui, il dit, oui, ça, il y a des choses qui viennent d'Europe, évidemment, mais il y a aussi un grand rameau qui est celui de l'Afrique. Les anciens esclaves, les affranchis, et puis le passage aussi avec les marins de Cuba et tout ça.
Mais lui-même est un peu descendant d'esclaves ou de... Non, c'est un...
Il ne me l'a pas dit.
Un argentin européen.
Je pense qu'il est plutôt européen, oui. Il ne me l'a pas dit, mais enfin, bon, je pense qu'il me l'aurait dit, hein. Surtout avec ce qu'on a parlé. Bon. Il n'est pas le seul d'ailleurs, puisque Plisson, hein, qu'on avait vu,
Michel Plisson qui était venu ici,
lui a écrit un livre, donc Cité de la musique Actes Sud, qui s'appelle Le tango du noir au blanc. Donc il y a d'autres gens qui considèrent que ça aussi c'est important. Alors, Cáceres a été pris comme un peu fil conducteur d'un film qui a été fait sur le tango negro. Il a écrit un livre lui-même qui s'appelle Tango Negro. Enfin bon, il est quand même complètement là-dedans. Bon. Alors, on va écouter tout de suite, pour pas perdre de temps, pour se mettre complètement dans l'ambiance, pour avoir une idée de ce que c'est justement que le tango à l'origine, avant d'être tango, quand il était encore candombe, passant insensiblement à la milonga, qui elle-même participera à la naissance du tango. Tout ça, c'est une filiation presque directe, on va dire, avec bien sûr d'autres éléments qui arrivent. Bon. Donc, on va écouter « Cum tango », un texte et musique de Cáceres, enregistrement de 2003.
Cantando para la fiesta del señor, en los bailes del mondongo se usa el ritmo del tambor. La lonca repiquetea, el mandinga se desató, el santo viene bajando, el cuero ya me sacó. Las pasiones se desatan en el compás del milongón, los morenos se divierten, el baile lo liberó. En la fiebre de la noche el candombe se instaló, los tambores están hablando, Baltasar los escuchó. Cun tango curan, cun tango curan, cun tango curan, cun tango. Cun tango curan, cun tango curan. De mayo del 36 se armó, 6.000 negros se juntaron a bailar por el señor. En esa lejana fecha Juan Manuel los convocó, en la plaza La Victoria el candombe se formó. Años más tarde, en febrero, la alegría se acabó, en San Telmo están de luto, el candombe se apagó. Los tambores se arrumbaron, mandinga los traicionó. Vinieron tiempos oscuros, el candombe se murió.
Tango par Juan Carlos Cáceres, dont vous nous parlez ce matin, Jean-Louis Mingallon. Alors, si j'ai bien compris, donc, le tango negro, ça veut dire beaucoup de tambours.
Ben oui, les percussions sont très présentes, forcément. Ça, avant même qu'il y ait, je pense, dans les fêtes, notamment les fêtes, les rythmes candombé, c'est avant tout des tambours. Ils sont d'ailleurs trois en général, traditionnellement. Il y a du candombé argentin, du candombé uruguayen. On va y venir. Je vais expliquer un peu quand même, parce que c'est important de savoir que quand on va à Buenos Aires, on s'aperçoit que la ville est blanche.
Oui.
Oui. Quand on regarde les chiffres, c'est vrai, c'est très très peu, c'est un tout petit pourcentage. Or, il faut savoir quand même qu'au milieu du 19e siècle, 40% de la population de Buenos Aires était noire.
Ah oui.
Ah oui, oui, oui.
C'est comme au Brésil, quasiment.
Voilà, c'est quasiment comme ça. C'est énorme. Ah ouais. Et que, bon, bah, pour des tas de raisons, le racisme, les épidémies, les noirs utilisés comme chair à canon, le rejet quasiment du fait que... On pourrait dire que les dirigeants argentins à partir de certaines époques, sauf exception comme le dictateur Rosas qui a joué au contraire contre la bourgeoisie blanche, qui a joué avec les Noirs et avec les Indiens. En gros, les dirigeants argentins ont toujours voulu que l'Argentine soit blanche.
C'est un pays européen, voilà, le plus européen d'Amérique
donc,
du Sud.
Du coup, quand on a commencé à parler de tango, on a dit mais l'influence la plus importante, c'est évidemment tous les immigrants et tous les immigrants qui arrivent d'Europe. Bon. Alors, évidemment, certains ont dit non, c'est pas ça du tout. Non, en tout cas, ça reste justement. Et en fait, ils sont arrivés parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement plus de candombé. Il y en a un peu, heureusement, en Uruguay, où il y a plus de Noirs. Mais c'est vrai qu'en Argentine, il n'y a presque plus de candombé. Il y a quelques familles qui en jouent encore un peu. Bon, on va écouter pour suivre et pour retrouver un peu cette... On va remonter presque dans le temps, parce que là, on a écouté, avec le Cumtango, on a écouté quelque chose qui basculait légèrement du candombé vers la milonga. Là, on va faire un petit peu avant la candombé pure et dure. Ça s'appelle la Presencia. C'est texte et musique aussi de Jean-Claude, Juan Carlos Cáceres. Cáceres écrit « Le tango qui vient de loin, les Noirs avec leurs tambours et leurs joies, les gauchos avec le ciel étoilé et la guitare, et plus tard arriva d'Europe, sans crier gare, le bandoneon. »
Vereda, sentí al costado mío una presencia. El viento barre las hojas y del misterio se instala muy definida su consistencia. Llegó sigilosamente hacia mi lado. Yo supe que ella venía con un recado y aquel mensaje podría desde la nada aclarar todas las cosas que habían pasado. El tango viene de lejos con sus raíces, que son las historias vivas de todo un pueblo. De todo el mundo vinieron para esas tierras a buscar trabajo y sol sin tener miedo. Labrando en el campo abierto con esas manos que fueron siempre las mismas que levantaron aquellas ciudades nuevas en el desierto, en ese lejano sur para el recuerdo. Amigo, es cosa seria que viene desde muy lejos allá en el tiempo. Los negros con sus tambores y su jarana, los gauchos, el cielo abierto y la guitarra. Más tarde llegó de Europa sin pasaporte el fuelle que dio el caché de su prestancia para continuar la historia de esa patria. Hay que trabajar aquí sin decir pavada.
La Presencia par Juan Carlos Cáceres. On parle aujourd'hui du tango negro avec Jean-Louis Mingallon. Et sur ce disque de Cáceres, d'ailleurs, on le voit justement, qui joue du trombone à côté de Juliette Gréco. Je ne sais pas s'il joue parfois du trombone dans des tangos.
Ah, ça lui arrive.
Oui, ça lui arrive.
Rien, il ne se refuse rien dans le domaine de l'instrumentation. Là, dans les deux enregistrements qu'on vient d'écouter, il y avait une... La présence importante de des percussions, ça c'est normal, puisque ça a commencé comme ça. Il y a aussi, d'une certaine manière, le retour d'instruments avant. On a entendu le saxo, là, par exemple.
Oui, très jazzy, d'ailleurs.
Oui, ouais. Oui, c'est un peu jazzy. Oui. De toute façon, il joue toujours entre les deux univers. Il pense que ça se mélange, en plus, il n'a pas complètement tort. Il a notamment retrouvé des traces de musiciens de jazz, comme Jerry Lauren Morton ou d'autres, qui ont dit, oui, mais à une époque, nous, on écoutait beaucoup de tango parce que ça nous inspirait pour certaines créations.
Oui. Et inversement. En fait, le tango serait l'origine du jazz.
Dans les bars louches. Dans les bas-fonds à Buenos Aires, Montevideo. C'est vrai que les musiciens disaient quelquefois, oui, on écoute du jazz parce que ça nous apporte aussi de savoir comment ça parle. Voilà, tout ça est mêlé. Alors Cáceres, il se sent très libre par rapport à l'instrumentation. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il a comme ça une idée, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la faire tout seul au piano, je vais le faire avec un quartet, un trio. Des fois, il a travaillé seulement avec deux percussionnistes. Bon, il a tous les cas de figure comme ça possible. Mais il aime quand même une chose particulièrement, c'est de travailler tout seul au piano. Et là, en général, il prend... Il s'empare des grands classiques du tango. Hein, il y en a plein, des grands classiques historiques du tango. Et il y en a un qu'il aime tout particulièrement, qui s'appelle Malena. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. Malena, c'est un tango de 1941, qui a été écrit par Homero Manzi et Lucio de Mar, qui a été extrêmement repris parce que c'est une grande histoire d'amour. Malena, qui est Malena, bon, voilà. Et lui, il l'a enregistré en 1999. Donc, Cáceres intime, on pourrait dire, Malena.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Arroyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en su infancia el sobo de alondra tomó ese tono oscuro. ¿Y acaso aquel román que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal.
Malena, on l'écouterait bien plus longtemps, cher Jean-Louis Mingallon. Mais en tout cas, voilà, vous m'avez donné envie de mieux le connaître, Juan Carlos Cáceres, à qui vous avez consacré votre chronique ce matin. Merci Jean-Louis.
Merci et à bientôt.
À très bientôt. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Pauline Boisaubert. Aujourd'hui à la technique, Claude Niort, Julien Calvas, entouré de Michael Fontanillas, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain. J'aurai le grand plaisir d'accueillir Enrico Macias, avec qui nous allons parler bien sûr de chansons et aussi de musique arabo-andalouse et de tas de sujets qu'il passionne. Bon week-end à tous.